Full Santé Mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais.
Et bienvenue dans ce nouveau numéro de Full Santé Mentale, l'émission qui chaque mois démonte les tabous et détricote les idées reçues sur la santé mentale. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, un sigle qui s'appelle IPA, infirmier infirmière en pratique avancée. On est ensemble aujourd'hui jusqu'à 11h.
Full Santé Mentale sur RCN.
Et je suis très heureux d'accueillir pour m'accompagner alors nos acolytes habituels, Marie-Paul Pierrel. Bonjour Marie-Paul.
Bonjour Thomas.
Comment allez-vous ?
Ravi d'être ici.
Bon, je rappelle, vous êtes présidente de l'association Bipolaire, si tu savais, voilà, qui coporte l'émission avec RCN et le CREPSI, ainsi que le CPN via le PTSM 54. Ça fait beaucoup de sigles, projet en territorial en santé mentale. À mes côtés, justement, du CREPSI, Ambre. Bonjour Ambre.
Bonjour Thomas.
On rappelle ce qu'est le CREPSI également.
Le CREPSI, c'est le centre de ressources handicap psychique.
Voilà, et pareil, on a le plaisir de se voir tous les mois pour vous proposer cette émission. À nos côtés aujourd'hui, je le disais, on va parler des infirmières infirmiers en pratique avancée. On a le plaisir d'en avoir deux dans notre studio. Marion Beauvais, bonjour Marion.
Bonjour.
Alors vous êtes donc IPA, on va le résumer hein, parce que pour pas le répéter à chaque fois, mais IPA en pédopsychiatrie au sein du CPN. Vous nous expliquerez quel est votre métier dans quelques instants. En face de vous, Adrien Claude. Bonjour Adrien.
Bonjour.
Vous êtes également infirmier en pratique avancée IPA, donc en psychiatrie adulte au pôle de consultation pour adultes de Lunéville qui dépend du CPN. J'oublie rien.
C'est ça, ouais, c'est à peu près ça.
Si jamais vous corrigez.
Tout est dedans. Peut-être pas dans le bon ordre, mais tout est dedans.
On remet ça à l'ordre dedans, il n'y a pas de problème. Et puis, on aura le plaisir d'écouter tout à l'heure Laurent Sornette également. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Vous serez notre témoin pendant cette émission. Vous travaillez avec justement Marion, qui est infirmière en pratique avancée.
C'est ça.
Et vous nous expliquerez tout à l'heure que c'est votre enfant hein, qui souffre de troubles de l'attention.
Oui.
Et que du coup, cette infirmière vous accompagne dans le quotidien, en tout cas dans votre vie et dans la vie de votre enfant.
Exactement.
Ce sera donc un peu plus tard dans l'émission. Je vous le propose, et vous le savez comme à chaque fois dans cette émission, d'écouter la parole des gens, des habitants de Nancy qu'on est allé interroger dans la rue. Ambre, on leur a posé des questions. Quelle est la première question qui a été posée aux habitants ?
Donc la première question qu'on a posée, c'est à votre avis, qu'est-ce qu'un IPA ?
J'en sais rien du tout, c'est la première fois que j'entends ce métier.
J'en ai aucune idée.
Bah alors j'en sais rien, mais je dirais un infirmier un peu plus qualifié que l'infirmier de base.
Un infirmier en pratique avancée dépasse ses capacités pour aller vers celles du médecin.
C'est un infirmier plus performant qu'un infirmier normal.
Alors est-ce qu'on est plus performant ? Est-ce qu'on est entre l'infirmier, j'allais dire, classique et le médecin, qu'est-ce qu'on retient ? On voit bien qu'il y a un peu de méconnaissance hein, quand même du sujet.
On voit qu'il y a une méconnaissance. Donc, tu l'as dit Thomas, IPA ça veut dire infirmier en pratique avancée. Mmh. Et donc depuis 2019, il y a 3080 infirmiers, donc IPA, qui ont décroché le diplôme. Le métier, il séduit de plus en plus parce qu'on passe de 393 étudiants en IPA en 2018 à presque 2000 en 2024, selon l'UNIPA, donc l'Union Nationale des Infirmiers en Pratique Avancée. Aujourd'hui, on compte 2367 IPA actifs en France, donc inscrits à l'Ordre National des Infirmiers. Et à côté, il y a environ 565 000 infirmiers diplômés d'État. Donc pareil, selon l'Ordre National des Infirmiers, autant dire que c'est encore rare comme profession.
Oui, c'est une proportion très faible encore.
C'est ça, on le voit. Hein.
Mais qui voit une progression.
C'est ça, et elle n'est pas très connue du grand public, hein, comme on peut l'entendre dans le micro-trottoir, même si les personnes arrivent quand même à deviner ce que ça peut être. Alors, que fait un IPA ? Ce sont des infirmiers super formés, qui sont capables de suivre certains patients de façon autonome. Ils peuvent prescrire des examens, gérer des traitements, voilà. Coordonner les parcours de soins avec les médecins et les autres professionnels de santé. En résumé, ce sont des vrais experts du suivi du patient.
Et ils nous le réexpliqueront tout à l'heure avec leurs mots et leur expérience dans quelques instants.
C'est ça.
La deuxième question qu'on a posée aux gens dans la rue, c'était...
Alors la deuxième question, c'était, selon vous, quel est l'intérêt de ce métier ?
Ça décharge un peu le travail du médecin, puisqu'il y a de moins en moins de médecins.
Ça soulage les médecins d'avoir un infirmier un peu plus compétent. Ça les sécurise.
Est-ce qu'il manque des infirmiers qualifiés ?
J'imagine que c'est pour enlever de la charge de travail aux médecins.
puisque c'est à peu près les mêmes études, sauf que c'est pas aussi diplômé, j'imagine, et aussi moins payé.
Ça peut être une bonne chose, parce que si c'est remboursé par la Sécu, ça coûte moins cher qu'un psychologue, et en plus de ça, ça permet de pouvoir parler à quelqu'un en plus qu'un psychologue. C'est peut-être plus accessible qu'un psychologue.
Plus assez accessible qu'un psychologue. Et alors je souris parce que il y a quand même cette remarque qui dit on est presque comme le médecin mais moins payé. J'ai vu les réactions de nos deux praticiens autour de la table. Ambre.
Oui, alors l'intérêt, les IPA, ils se spécialisent dans 5 grands domaines hein, que nos experts diront tout à l'heure. Je ne vais pas les dire. Leur mission et leur intérêt, c'est d'améliorer l'accès aux soins, de fluidifier le parcours des patients et d'alléger la charge des médecins. Hein, ça, on l'a bien compris dans le micro-trottoir. Parce que les médecins deviennent trop peu nombreux, en fait.
Ouais.
Pour les infirmiers, c'est aussi une vraie évolution professionnelle, avec plus d'autonomie, plus de responsabilité, un rôle central dans la coordination des soins. En pratique, ça veut dire des parcours plus simples pour les patients, une meilleure organisation dans les services et un soutien précieux pour les équipes médicales. En résumé, donc les IPA représentent une nouvelle étape dans la profession des infirmiers, plus spécialisés, plus autonomes et surtout un atout pour améliorer la santé de tous.
Très bien, on en reparlera encore tout à l'heure hein, avec nos deux praticiens. La dernière question qui a été posée aux gens,
alors,
oui, Marie-Paul, pardon.
Si vous aviez besoin d'un suivi en psychiatrie, que penseriez-vous d'un suivi par un IPA ?
Ça peut être une bonne chose pour un premier avis, une première approche, et puis pour approfondir éventuellement que lui signale s'il y a besoin d'aller un peu plus loin dans la recherche de la pathologie et d'être dirigé vers un médecin seulement après.
Ah bah pourquoi pas, oui.
Je me renseignerai avant quelles sont ses compétences dans ce domaine.
Eh bien ça pourrait être une personne qualifiée pour écouter de nouveaux patients qui n'oseraient pas aller voir un psy car le psy est une dénomination qui peut faire peur.
Bah pourquoi pas. C'est quelqu'un à qui on peut avoir confiance, je suis sûre.
Voir c'est quoi la différence avec un psychologue, si c'est les mêmes études et s'il peut m'aider pareil, quoi.
C'est intéressant ce qu'on entend quand même. Est-ce que ça permettrait de simplifier l'accès finalement à des soins psychologiques sans avoir cette crainte d'aller voir un psy ?
Voilà, donc malgré la méconnaissance que vous avez soulignée de la profession par le public en général, là les réponses qu'on a entendues elles sont plutôt positives. Hein. Les personnes interrogées ont tendance à faire confiance, quand même, parce que dans infirmier en pratique avancée, il y a le terme infirmier. Et c'est un soignant qui inspire confiance, parce que les patients sont bien familiarisés avec cette profession, c'est une image de référence positive. Alors, malgré ce manque de connaissances précises sur les IPA, c'est un métier donc relativement nouveau, pas encore très répandu, mais les gens sont disposés à faire confiance. Pour certains, ils considèrent le fait de consulter un IPA comme un préalable. Vous avez entendu une étape dans un processus de soins. Ils veulent ensuite aller plus loin, que ce soit plus approfondi, ce qui permettra d'être redirigé vers un médecin s'il y a besoin. Et pour eux, le recours au médecin reste quand même la référence. En matière de suivi en psychiatrie, l'infirmier en pratique avancée apparaît comme un intermédiaire entre le médecin spécialisé et le patient, en tout cas pour un début de prise en charge. Et pour d'autres, on a entendu qu'ils avaient une certaine prudence, probablement due à ce manque de familiarisation avec la profession. Et ils se posent beaucoup de questions. C'est quoi la différence avec le psychologue ? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme études ? Est-ce qu'ils peuvent aider pareil ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura la même qualité de suivi, de soins ? Donc, tout en restant ouvert à l'idée de consulter un IPA, ils auraient quand même besoin de la garantie des compétences. Mais... compétences. Le terme IPA fait moins peur que le terme psy. On suppose que la personne qui a dit ça veut dire psychiatre. Hein. Ça peut en quelque sorte apprivoiser un patient pour qui le terme psychiatre est encore dissuasif, qu'il n'oserait pas en consulter un. C'est une expression assez forte quand même, avoir peur d'aller voir un psychiatre, alors que c'est quand même un médecin spécialisé, et on n'aurait pas peur d'aller voir un cardiologue spécialisé dans les soins, ou même un cancérologue, même si on a peur de ce qu'on va entendre, bon, on n'hésite pas quand même à aller le consulter. Et ça, c'est parce que tout ce qui touche à la santé mentale, c'est encore plein d'idées reçues, et que donc, il faut continuer à déstigmatiser. Alors, pour conclure, on peut dire que l'apparition des IPA en psychiatrie, semble une bonne chose. Ça aidera les patients à aller consulter plus tôt et pour avoir un diagnostic plus tôt, ce qui permettra d'être en prise en charge plus vite. Et donc, on sait bien qu'en matière de santé, plus on se soigne tôt, mieux on maîtrise la situation en ayant un traitement ciblé plus rapidement pour freiner l'évolution de la maladie, pour éviter des comorbidités, voire des complications beaucoup plus graves. Bref, améliorer la qualité de vie des patients. Et donc, ça vaut la peine d'aller voir son IPA en psychiatrie.
Et justement, on va redéfinir ça dans quelques instants avec vous, Marion et Adrien, qui, je le rappelle, hein, pratiquaient tous les deux ce métier d'infirmière en pratique avancée. Donc, dans un instant, je vous demanderai évidemment de définir ce qu'est votre métier et comment vous le concevez aussi dans l'amélioration du parcours patient. Le temps pour nous d'écouter un titre qui est le titre de Stromae qui s'appelle La Bonne Journée. Alors c'est vous Adrien qui avez choisi nous avez en tout cas proposé ce titre. Il a une particularité ce titre.
Oui, alors c'est vrai que quand on cherchait le titre, ouais. on cherchait un titre en lien avec la santé mentale et effectivement on parlait de Stromae hein, qui l'a pas caché, hein, qui a un trouble de l'humeur. Et dans son album, dont j'ai oublié le titre, mais dont il suit cette chanson, qui est super habité par son vécu en santé mentale, il a écrit deux chansons qui s'appellent La Bonne Journée et La Mauvaise Journée en fait, et il décrit dans cette chanson à peu près la même journée mais vue d'un côté vers vide et de l'autre côté vers plein. Donc on vous propose la côté vers plein,
c'est ça le côté vers plein exactement, ouais.
Et voilà, enfin moi je trouve que cet album est vraiment exceptionnel.
C'est de l'album qui s'appelle Multitude de Stromae et on écoute effectivement le bon côté de la journée, en tout cas la journée vue du bon côté par Stromae, ça s'appelle La Bonne Journée, c'est sur RCN.
Mais qu'est-ce que ma journée est bonne, me suis levé du bon pied. Oui, je vais le prendre mon pied et je lèverai seulement pour la danse de la joie. C'est la danse de la joie. Le réveil est facile, le caca est parfait, même pas besoin que je l'essuie. Sentiment universel, dehors il fait soleil et dedans aussi. Comme une journée d'anniversaire, de 0 à ses 35 ans, mon style est clinquant. Je sais même plus trop comment j'ai fait, je suis frais comme si j'avais 20 ans. Tu sais ce que ça fait, non c'est indécent, je rigole pour rien, je souris bêtement. La vie est biscuit, comme une journée de déconfinement. Non merci, mon verre est à moitié rempli. Y'a les jours sans, les jours avec, ce sera avec ce coup-ci. Mais qu'est-ce que ma journée est bonne, me suis levé du bon pied. Oui, je vais le prendre mon pied et je lèverai seulement pour la danse de la joie. C'est la danse de la joie. Le bonheur est bien la seule chose qui, quand on la partage, se multiplie. Je vois la vie en rose, dis-moi, est-ce que tu la vois aussi? Si le bonheur des autres te rend malheureux, c'est que t'es un rageux. Si le malheur des autres te rend heureux, c'est que t'es un rageux. T'as peur d'être triste quand t'es joyeux, et tu veux être joyeux quand t'es triste. Tu profites jamais vraiment de ce moment présent, en fait t'es juste dépressif. Tout ce que je sais, c'est que s'il se tourne vers le soleil, l'ombre est derrière lui. Et s'il est pas né de la dernière pluie, c'est qu'après l'orage viennent les éclaircies. Mais qu'est-ce que ma journée est bonne, me suis levé du bon pied. Oui, je vais le prendre mon pied et je lèverai seulement pour la danse de la joie. C'est la danse de la joie. L'humeur, ce n'est qu'un point de vue. Tu choisis pas si tu vois le bon côté des choses ou pas. C'est parce qu'il y a des bas qu'il y a des hauts. Et parce qu'il y a des hauts qu'il y a des bas. Y'a pas de débat d'idéaux, non. Comme un idiot fait des pas de la danse de la joie. C'est la danse de la joie.
10h, 11h.
Full Santé Mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais.
Et aujourd'hui, on parle d'un métier, le métier d'IPA, infirmier ou infirmière en pratique avancée. On l'a entendu il y a quelques minutes dans les micro-trottoirs quand on était à interroger les gens dans la rue que voilà, c'est un métier qui est pas trop connu, à dire vrai. Et ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue. Alors je rappelle qu'on a le plaisir d'avoir à nos côtés Marion Beauvais, vous êtes IPA en pédopsychiatrie au CPN, et on a Adrien Claude, vous êtes vous IPA en psychiatrie adulte. Alors vous allez me redire, c'est quoi? C'est pôle de consultation pour adultes, c'est ça?
C'est le pôle de Lunéville, ouais. Saint-Nicolas-de-Port, sur le secteur de Lunéville, et je travaille en centre de consultation pour adultes, en voilà. CMP adulte.
Et qui dépend du CPN. Donc ce qui est intéressant, c'est maintenant qu'on sait que tous les deux c'est votre métier, c'est que vous nous expliquez peut-être ce que c'est le métier d'IPA.
Ok, je prends la parole alors.
Ah bah je vous en prie, allez-y Adrien.
Déjà, je voulais vous remercier de nous mettre en lumière, en fait, de mettre en lumière ce métier, parce qu'on l'a vu dans le micro-trottoir, c'est un métier qui est encore méconnu, c'est un métier qui a 5 ans maintenant en France, les décrets qui ont permis de, même plus, les, 2018, les décrets datent de 2018, ça, ouais. Après avec le temps de formation, c'était 2 ans de formation, donc les 2020. Premiers IPA sont sortis véritablement en 2020.
Donc ça va, donc, on est dans la 6e année quoi.
C'est ça, on est encore un métier jeune. À l'origine, en fait, le constat, il était que y a une démographie médicale qui est en berne. Il y a une explosion des pathologies chroniques d'une manière générale dans différents domaines de santé.
Ouais.
Et puis il y a aussi une volonté d'améliorer la qualité des soins, ça qui est permanente. Mmh. Et donc en fait, ça c'est un peu le terreau en fait qui a permis la création de ce métier-là. Donc voilà, premier décret en 2018 avec l'idée de s'emparer d'une profession infirmière qui est très présente sur le territoire, à peu près 600 000 personnes, et de lui proposer de monter en compétences pour venir apporter en quelque sorte une réponse à cet environnement là que je viens de décrire. Mmh. Là. Donc moi d'un point de vue personnel, je trouve que c'était une super opportunité parce que quand on est infirmier, finalement les perspectives d'évolution, hormis changer de service, hormis évoluer vers le métier de cadre, c'est assez limité. Et là en fait il s'ouvrait une porte incroyable, c'est-à-dire évoluer dans la clinique, donc améliorer, enfin évoluer en compétences et en restant auprès du patient. Et donc ça c'était vraiment une super chose. Donc je voulais aussi revenir
allez-y j'en prie, on est là pour ça, hein.
sur la première question du micro-trottoir, on voit que c'est blindé d'idées reçues, hein, les IPA ils dépassent ses compétences, il est super formé,
que vous êtes entre l'infirmier et le médecin, mais assez proche du médecin dans ce micro-trottoir.
Ça nous fout la pression, hein. franchement et d'ailleurs je pense que je vous le dis, c'est mon ressenti. C'est vrai que c'est difficile d'incarner un nouveau métier dans un système de santé, en plus qui est très attendu, où on acquiert des compétences médicales, des compétences de prescription. C'est pas rien, quoi. Donc,
justement, par rapport à ça, je vais y revenir parce que on a dit depuis quand ça existait, on a expliqué pourquoi c'est arrivé, mais en fait, on n'a toujours pas compris ce que c'était réellement l'IPA. Vous nous parlez effectivement de ce que disaient les gens dans le micro-trottoir, que vous êtes entre le médecin et l'infirmier ou l'infirmière.
Alors je dirais pas ça. Je dirais pas ça. Ouais. En fait, on est infirmier de formation.
Ouais.
Le prérequis pour être IPA, il faut être infirmier de formation, avoir exercé au moins 3 ans comme infirmier, avoir fait une formation supplémentaire, une formation universitaire d'IPA dans une mention choisie en fait. Donc nous avec Marion, on a choisi la mention psychiatrie et santé mentale. Il y a 5 mentions. Et être inscrit au tableau de l'ordre national des infirmiers. Une fois qu'on a passé ces 2 ans universitaires avec cette expérience en tant qu'infirmier, on peut exercer comme IPA. Pour la faire très très courte, en fait, l'IPA il acquiert des compétences supplémentaires auprès du patient.
Ouais.
Donc en fait, il a un arsenal thérapeutique un peu plus étoffé. Il peut agir sur la prescription en ajustant le traitement. Et ça, c'est extraordinaire pour le patient parce qu'en fait, ça permet de prévenir l'apparition des effets indésirables. Ouais. Ça permet de répondre à une clinique un petit peu bruyante en augmentant le traitement. Enfin, voilà, on est plus sur une psychiatrie de précision, je dirais.
Et j'imagine qu'en plus, ça allège le travail du psychiatre et ça limite le temps aussi pour le patient qui devait attendre avant de voir un psychiatre pour revoir son traitement. Là, il peut vous voir directement, quoi.
Alors, en fait, dans les faits, le patient... au centre médico-psychologique, ouais. Il continue à avoir un psychiatre. Il garde un référent médical, ouais, et ça, c'est indispensable. Et moi, je travaille en permanence avec des référents médicaux, avec des psychiatres, avec qui on échange régulièrement. Mais effectivement, on se retrouve un peu sur le devant, sur le devant de la piste avec l'usager. Au final, la démographie médicale fait que, avant, les patients qui avaient des problèmes de psychiatrie chronique, comme un trouble bipolaire ou de la schizophrénie, parfois, quand les choses étaient à peu près stabilisées, ils étaient vus peut-être 2-3 fois dans l'année, ce qui est peut-être peu, parce qu'en fait, les choses, elles évoluent. Notre métier permet d'améliorer la qualité des soins. Et je crois que c'est vraiment... moi, c'est comme ça que je vois le métier. Ouais. C'est que finalement, je reste fondamentalement infirmier. Mon métier, il est de coûte que coûte d'améliorer la qualité des soins et la qualité de vie des usagers que j'accompagne. Mmh. Et pour ça, en fait, j'ai un arsenal supplémentaire pour aller vers cette
amélioration
de la qualité de soins. Ce cap-là, en fait. Ouais.
Alors du coup, vous pouvez agir sur la prescription en la réajustant.
C'est ça. On peut prescrire des examens complémentaires, ouais. Donc tout un tas de surveillance biologique, prescrire des examens cardiologiques, notamment en psychiatrie, c'est assez intéressant. Donc, les recommandations vont sur une surveillance cardiologique normalement annuelle. Donc, ça, c'est des choses qui, dans les faits, en fait, sont difficilement mises en place du fait du manque de temps, en fait. Donc, là, on vient en assistance, pour améliorer toujours la qualité de vie des usagers et prévenir des problèmes de santé comorbides qui pourraient arriver. Et puis après, on a aussi un bagage clinique qui est du coup un peu plus solide, déjà de par notre expérience. Et puis,
la formation. Orienté vers les soins somatiques aussi, certaines fois, parce qu'on a des patients qu'on suit depuis un moment et on voit que l'accès aux soins somatiques pour les personnes qui souffrent de santé mentale, ouais, est parfois plus compliqué. Donc on peut accompagner avec le réseau qu'on connaît, les partenaires qu'on connaît, et travailler avec les partenaires aussi.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, vous créez du réseau autour du patient pour trouver des solutions qui permettent plus facilement ou plus rapidement de trouver des solutions, si je comprends bien.
En fait, comme à force de connaître le réseau et d'avoir de l'expérience, parce qu'on est souvent des personnes qui ont, enfin, des professionnels infirmiers qui on a une expérience dans notre domaine.
Ouais.
Le fait d'avoir fait cette formation supplémentaire nous permet de mettre à disposition le réseau qu'on connaît pour les patients qu'on suit et leurs familles.
Pardon, mais c'est quelque chose que vous ne pouviez pas faire quand vous étiez
diplômé d'État. Disons que quand on est infirmier diplômé d'État, on a le suivi du patient, on peut orienter, mais on a moins d'autonomie dans notre travail pour accompagner, faire de la psychoéducation. On a peut-être aussi moins de temps parce qu'on est souvent dans des prises en charge de groupe ou des prises en charge bien préconisées par le médecin et bien précises. Alors que quand on travaille en tant qu'infirmier en pratique avancée, on nous laisse beaucoup d'autonomie, on a le suivi global du patient et on est un petit peu responsable de ce qu'on peut mettre en place pour le patient, tant au niveau du renouvellement du traitement que des informations qu'on peut donner, de l'orientation qu'on peut proposer au patient, tout en tenant informé le médecin qui donne son avis favorable ou défavorable aussi. Le médecin reste toujours... on travaille toujours en collaboration avec à qui on donne les informations, et quand on est face à des situations complexes, on a toujours un médecin référent de l'enfant à qui se référer.
J'ai un peu l'impression que vous palliez parfois aussi peut-être aux difficultés aussi des médecins. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup que en psychiatrie notamment, il y a un manque de psychiatres. Est-ce que c'est aussi ça un peu votre rôle, de faire en sorte que il y ait pour le patient, ce soit pas quelque chose de trop pas difficile à vivre, mais que il est quand même malgré tout un suivi, même s'il n'arrive pas à avoir un psychiatre aussi régulièrement qu'il le devrait. Ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure d'ailleurs, Adrien, en disant on peut le voir peut-être plus souvent que ce que le médecin peut faire. Quoi.
Moi, je pense qu'on pallie pas au médecin, parce qu'en fait le médecin, il est toujours là. Quand on n'intervient pas dans les prises en charge en centre médico-psychologique, généralement il y a un infirmier qui intervient. L'infirmier il observe quelque chose qui dépasse son champ de compétence, il va aller chercher le médecin. Disons que notre intervention, elle va peut-être minimiser les interlocuteurs, peut-être fluidifier le parcours du patient. Et en ça, quand on a un trouble psychiatrique chronique, c'est extrêmement intéressant, quoi. Plutôt que d'aller chercher le médecin en one shot, quand on est face à une situation aiguë, là, on a vraiment les outils pour prévenir la situation aiguë. Et en ça, c'est extrêmement intéressant. Du coup, il y avait aussi dans le micro-trottoir, pardon, une grande confusion avec psychologue, infirmier.
C'est vrai que c'est un point qu'il faut qu'on réaborde. On peut y aller maintenant si vous voulez. Moi, j'ai d'autres questions aussi sur votre métier, mais allons-y sur ce point-là. C'est vrai qu'il y a eu cette idée-là tout à l'heure qui était dite dans le micro-trottoir, qui moi aussi m'a un peu interpellé, c'est de dire est-ce que justement parfois ça simplifie pas l'accès aux soins à des gens qui auraient peur d'aller voir un psy. Alors c'est vrai que il y avait la question, est-ce que c'est psychologue ou psychiatre, c'est pas dit par la personne dans le micro-trottoir. Bah voilà, la question est posée.
En tout cas, déjà, il y a une grosse confusion parce que, ceux qui connaissent un peu les métiers de la santé auront bien compris qu'on n'était pas des psychologues.
On n'a
déjà pas la même formation initiale. Les psychologues ont une formation en sciences humaines. Nous, on a une formation plutôt d'orientation médicale. Donc, on n'a vraiment pas du tout le même angle. Et alors, ça n'empêche pas que les psychologues, eux, leur cœur de métier, c'est de la psychothérapie. Nous aussi, on peut s'approprier des outils psychothérapiques dans l'accompagnement. Mais on n'est pas sur le même type de métier, on n'est pas sur le même regard. Le psychologue n'a pas accès à la prescription médicale. C'est pas le même métier du tout.
C'est parfaitement complémentaire.
Et j'allais
dire, ça rejoint un peu ce que nous disait Marion il y a quelques instants, qui disait quelque part, en fait, finalement, ça fait un peu rentrer dans le réseau. C'est-à-dire que vous avez peut-être aussi la possibilité de proposer ou d'orienter des patients en disant, peut-être vous pourriez aller voir tel ou tel psychologue.
Moi, la vraie plus-value, pourquoi j'ai eu envie de faire la formation d'infirmière en pratique avancée, c'est qu'en fait, j'aimais beaucoup mon travail d'infirmière auprès des enfants, mais je trouvais que j'avais pas assez de temps pour prendre en charge les enfants. J'avais beaucoup de temps, mais j'avais pas assez de temps pour accompagner les parents et toutes les personnes qui gravitaient autour de l'enfant. Et j'avais besoin de plus de temps et plus d'autonomie pour faire ce travail-là. Et je trouve que la vraie plus-value de mon travail, et ce qui apporte beaucoup, c'est que la famille comprenne mieux son enfant, en tout cas en pédopsychiatrie, comprenne mieux les particularités de son enfant, et des outils pour l'accompagner au quotidien. Et ça, c'est vraiment profitable à l'enfant et à sa famille, parce qu'on voit l'impact que peuvent avoir des troubles de santé mentale chez les enfants sur toute la famille. Donc je trouvais que ça, c'était vraiment la vraie plus-value. Donc pour moi, c'est vraiment un travail en plus qu'il fallait mettre en place et qui avait du sens pour moi en pédopsychiatrie. Donc,
c'est-à-dire que vous intervenez auprès du patient, mais aussi auprès de ses aidants finalement, et ça permet de mieux apprendre et comprendre le trouble dont on vit et comment mieux le gérer finalement.
Alors en tant qu'infirmier, on le fait aussi, mais ça donne
mais
plus,
avec
de,
plus temps. De temps. Là,
voilà,
c'est ça,
plus d'autonomie. Et,
oui, parce que quand je vous entends, j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est-à-dire que quand on est infirmier diplômé d'État et qu'on est en psychiatrie, on va faire ce qu'on doit faire dans des temps, on réagit quoi après. Alors que là, vous avez plus de temps de réfléchir et de vous poser et de travailler avec les gens. C'est quoi? C'est un peu plus de recul?
Alors, je pense qu'avant, on a la possibilité de le faire, mais on se l'autorise encore plus parce que j'ai des collègues infirmiers qui font très bien ce travail-là aussi, mais qui, en plus, doivent prendre en charge les enfants. Donc, ça permet de le faire d'une autre manière. Après, il y a aussi un gros travail. On fait de la psychoéducation, mais il y a aussi un gros travail de liaison avec les médecins pour que les personnes soient informées de ce qui se passe pour l'enfant. Il y a aussi un travail avec les écoles, tout un travail aussi avec quand il y a un suivi social. Donc, c'est vraiment prendre le temps d'informer au maximum l'entourage pour que l'enfant se sente bien dans tous les lieux où il évolue.
Oui, vous êtes plus sur une vision globale du patient finalement
sur
que sur une vision médicale. Quoi.
Oui, c'est ça. Alors, le médecin le fait aussi. Important aussi qu'on se dise que chacun a sa place, qui est compliqué aussi en tant qu'infirmier en pratique avancée, je trouve, c'est de comprendre et connaître ses missions et trouver sa place en n'allant pas sur les plates-bandes des autres métiers. Et on a besoin de toute une équipe pour travailler ensemble, les psychologues, le médecin, les infirmiers, les éducateurs. Enfin, moi, je travaille avec beaucoup de personnes et c'est ce qui a été compliqué pour moi au départ, c'est de ne pas... Ou l'assistante sociale, qui a un rôle très, très important aussi, de ne pas empiéter, de trouver sa place. Et ça vient au fur et à mesure, on essuie un peu les plâtres parce que c'est un nouveau métier.
C'est un métier très, très neuf. Ça fait jamais que 5 ans, finalement, que ce métier existe.
Ça.
Donc, il faut trouver la place.
Voilà. Moi, j'étais la première en pédopsychiatrie. Donc, c'est en travaillant sur plusieurs endroits aussi pour avoir plusieurs expériences. Parce que je travaille sur un hôpital de jour, un CMP. Et un petit peu, j'interviens un peu aussi sur l'OHS de Flavigny au centre de santé.
D'accord. Mais alors, je vous pose la question, Marion, mais je crois que vous l'avez dit, mais vous étiez déjà infirmière en psychiatrie.
J'ai travaillé 25 ans comme infirmière, enfin 20 ans comme infirmière en pédopsychiatrie.
En pédopsychiatrie,
et
oui.
Je suis revenue travailler en qualité d'IPA au même endroit,
ouais.
Et sur d'autres endroits en même temps. Donc, j'ai retrouvé des collègues avec une autre fonction.
Et justement, c'est, vous avez réussi à articuler les choses aussi avec vos collègues?
Eh bien, on continue à inventer, à explorer, ouais. Mais c'est riche en expériences, ouais. Parfois difficile, parfois douloureux, parfois très positif, et le bilan, il est plutôt positif. Il est plutôt positif quand même, voilà, mais c'est très riche.
Et vous, Adrien, c'est pareil, vous étiez infirmier en psychiatrie?
Alors oui, je suis diplômé depuis 2008, et je suis rentré en tant qu'IPA, donc j'ai exercé en 19 ans, en fait, je suis rentré à la fac en 2019. Le chemin d'IPA, c'est pas un long chemin tranquille, hein. C'est vrai que ça c'est extrêmement insécurisant de retrouver un peu, enfin quand on est infirmier en fait, le métier d'infirmier, il est intégré dans l'inconscient collectif, on a l'impression, enfin on peut faire un travail un peu singulier comme infirmier, il y a pas de souci, ça posera de problème à personne parce que c'est infirmier. Là on a un nouveau métier qui est attendu au tournant, qui a quand même des compétences médicales, en tout cas c'est on nous le renvoie assez souvent.
Bien sûr, ouais.
Et donc, ce qui était compliqué, c'est qu'il y a, au début, en tout cas, il y a eu ce besoin de justifier un peu tout ce qu'on faisait. Et en fait, qu'est-ce que ça fait de plus que ce que moi je fais, et d'être sans arrêt dans cette justification-là. Et ça, c'était, c'est carrément moins le cas, en tout cas.
Oui, ça s'ancre un petit peu maintenant. C'est en train de rentrer dans une habitude de travail, quoi.
C'est ça.
On fait moins peur à nos collègues.
Ouais. Mais c'est important.
En fait, il y a l'aspect concret, il y a ce qu'on laisse derrière, il y a le retour des usagers. En fait, ça, je pense que c'est la meilleure réponse, c'est le meilleur message. On aura beau vouloir expliquer tout ce qu'on veut, finalement, en fait, c'est le résultat sur le terrain qui parle. Et je pense que le résultat sur le terrain, il vient satisfaire en tout cas les décideurs au niveau de l'hôpital, les collègues, et en même temps, c'est assez gratifiant aussi de voir que ce qu'on fait.
Vous devancez complètement la question que j'allais vous poser, c'était un petit peu ça. Vous êtes tous les deux, vous avez pratiqué le métier d'infirmier diplômé d'État en psychiatrie, ou en pédopsychiatrie, et aujourd'hui que vous êtes installé en tant qu'IPA, et vous le disiez tout à l'heure, dans l'objectif d'améliorer la qualité du parcours patient finalement, comment aujourd'hui vous voyez les résultats et comment vous les vivez? Ça y est, maintenant ça s'installe, ça s'ancre, vous commencez à avoir un truc qui fonctionne avec l'ensemble des personnels et des professionnels. Comment justement, du point de vue du patient, vous ressentez les choses maintenant, vous qui avez vécu aussi à l'époque où il n'y avait pas les IPA? Quelle est la plus-value pour vous?
Moi, le point de vue patient, je pourrais dire ce que moi je pense de ce que je pense que ce que je perçois du parcours patient, mais j'aurais envie de parler de mon ressenti à moi.
Bien sûr,
il y a déjà tout un pan aussi du métier dont on n'a pas parlé parce que on disait qu'il y a une évolution des compétences, ce qu'on appelle en clinique directe, donc auprès du patient, mais il y a aussi une évolution des compétences dans la clinique indirecte, donc pas nécessairement auprès du patient, donc avec des missions de formation, des missions de recherche, des missions de ressources cliniques auprès des équipes. Donc on est identifié comme des ressources cliniques pour les collègues. Donc il y a aussi, toujours dans cette optique d'améliorer la qualité des soins, on peut venir nous trouver pour des questions diverses et variées, pour essayer d'améliorer tout ça, ou en tout cas d'aller rechercher des réponses pour améliorer la qualité des soins. Et en ça, moi, je trouve que le métier, bien qu'il était inconfortable pendant quelques années, il est extrêmement stimulant sur le plan intellectuel, il est extrêmement valorisant sur le plan humain. Et je suis ravi des tâches que je peux exercer aujourd'hui. D'une manière générale, j'ai le sentiment que les patients sont plutôt satisfaits des soins qu'on leur propose. On est peu nombreux aujourd'hui, on est 8 IPA sur le CPN. J'irais même parfois jusqu'à me dire que j'ai le sentiment que les patients qui ont un trouble psychiatrique chronique, qui n'ont pas accès à un IPA, ont peut-être moins de chances que les autres. Mais après, ça, c'est mon avis très personnel.
Oui, mais c'est intéressant d'avoir votre retour aussi. C'est quelque part, vous avez essuyé les plâtres et aujourd'hui, vous commencez à en voir les premiers résultats. Donc, c'est intéressant d'avoir votre retour là-dessus.
En tout cas, je prêcherais dans le sens. Pour le développement de la pratique, pour justement aller sur une pratique de plus en plus homogène et pour qu'il y ait une vraie démocratie sanitaire.
Et puis finalement, permettre à tous les patients de bénéficier de cet accompagnement-là.
De soins d'une qualité à peu près similaire pour tout le monde.
On vous sent plutôt heureux aujourd'hui dans votre métier, Adrien. Marion, même question.
Moi, je le ressens de la même manière. Je vois que c'est positif dans le sens où, en fait, mes journées, il faudrait qu'elles soient doubles.
Ah oui.
Donc, en fait, c'est que je m'ennuie jamais et j'ai l'impression d'être fortement sollicitée ou alors je suis nulle en organisation, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vois que on peut me solliciter pour différentes choses et ça me fait plaisir d'être sollicitée parce que je sens que je peux apporter des choses. Je sens que, moi j'ai toujours aimé être avec les enfants et puis essayer de guider, de transmettre aussi aux parents. Mmh. Et on sent que la transmission qui est faite aux parents, ça apporte aux enfants parce qu'on voit souvent une évolution plutôt positive. Voilà. Et puis c'est vrai qu'avec l'expérience, on a quand même l'œil plus qui s'affine. Ouais. Je pense que les parents m'ont aussi, les parents et les enfants m'ont beaucoup appris parce que je participe aussi à un groupe de parole pour les parents qui ont un enfant avec des troubles du spectre autistique parce que moi je suis plus sensible aux troubles neurodéveloppementaux. C'est vraiment quelque chose qui me, dans lequel j'ai de plus en plus d'expérience et de formation et je trouve que c'est ça apporte beaucoup.
On aura dans quelques instants le témoignage de Laurent qui justement a son enfant qui est accompagné, que vous accompagnez, donc finalement Laurent aussi est accompagné, que vous l'accompagnez également. Donc dans un instant vous nous direz justement comment vous avez vécu l'arrivée de ce nouveau métier. Une petite dernière question avant d'écouter dans quelques secondes Joy et Jonathan. Vous le disiez un petit peu, les patients nous apportent beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose que vous diriez aujourd'hui? Est-ce que ça a apporté à la mise en place de votre activité? Est-ce que justement le fait d'avoir plus de temps, plus de recul, vous permet aussi de grandir dans votre pratique?
Clairement, oui, c'est sûr que...
Moi, je travaille jamais seul. De toute façon, je collabore systématiquement avec les usagers. Ouais. Donc, en fait, on s'apporte l'un l'autre. D'un côté, on a des compétences théoriques. Après, c'est très scolaire, ce que je veux dire. L'usager a ses connaissances expérimentales. Et en même temps, on avance vers des objectifs communs avec nos compétences communes. Je pense qu'on s'apporte autant l'un que l'autre.
J'ai très hâte d'entendre Laurent dans quelques instants sur le sujet, justement. Je vous propose, avant qu'on écoute Joy Jonathan, je ne sais plus, je crois que c'est vous, Marion, qui aviez choisi ce titre, Le Bonheur. Alors, dites-nous pourquoi vous avez choisi cette chanson.
Parce que moi, je trouve que c'est sympa d'être de bonne humeur. Voilà, le bonheur, c'est tout ce qu'on espère pour tout le monde.
Exactement. écoutez, un petit peu de bonheur avec Joy Jonathan maintenant sur RCN.
Le bonheur, c'est pas le but, mais le moyen. que même si je vieillis, je veux pas laisser passer ma vie. Le bonheur, c'est pas le but, mais le moyen. Le bonheur, c'est pas la chute, mais le chemin. Mon bonheur, c'est toi. Mon bonheur, tu le sais. C'est toi et moi sur l'eau.
Jusqu'à 11h, Full Santé Mentale sur RCN.
Avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais.
Et ce matin, on parle d'un nouveau métier qui est entré, alors pas qu'en psychiatrie d'ailleurs, mais qui s'appelle le métier d'infirmière en pratique avancée. Je ne disais pas qu'en psychiatrie parce que je crois qu'il y a effectivement, vous disiez 5 mentions tout à l'heure, Adrien, vous les avez, vous les
Je les ai notées.
Alors dites-nous, c'est quoi les mentions, c'est les spécialisations finalement, c'est ça?
C'est ça, en fonction du métier originel de l'infirmier.
Ouais.
L'IPA peut exercer alors, soit en oncologie, donc dans le milieu de la cancérologie,
ouais.
Soit en néphrologie, souvent dans des centres de dialyse.
D'accord, ouais.
Soit en, là il y a une mention qui s'appelle pathologie chronique stabilisée qui
ça,
regroupe
quoi, ça, ouais.
tout un tas de pathologies. Donc bien souvent les collègues travaillent en cardiologie ou travaillent en diabétologie ou auprès de auprès de personnes âgées.
Mm-hmm.
Ou même en libéral, les personnes qui exercent en libéral ont généralement cette mention là.
OK.
Et la dernière mention qui est apparue un petit peu après les autres, c'est la mention urgence.
D'accord. Voilà. Ok, très bien. Alors, on disait justement, c'est pas un bon lien que je fais, mais on a beaucoup parlé de votre métier, dans le suivi des usagers, des patients, mais il y a aussi, on l'a entendu d'ailleurs au début du micro-trottoir, et après on parlera avec Laurent, des interventions, des primo-intervenants, vous pouvez être un peu primo-intervenant aussi sur des patients, c'est ça, qui vous sont adressés ou qui viennent comme ça en CMP, racontez-nous.
Alors, au départ, le suivi du patient devait être confié à l'IPA par le médecin.
Mmh.
Maintenant, on peut rencontrer des patients en première intention à partir du moment où on collabore avec un médecin.
D'accord.
Donc ça, maintenant, c'est possible. Après, au CPN, l'accès, le patient peut pas forcément demander un suivi, ouais, par l'IPA. C'est en fonction de la présentation de la première demande, en fonction des besoins et de ce qui est repéré dans le descriptif, le patient sera plus ou moins orienté vers un infirmier, ouais, en pratique avancée.
Initialement, il y avait un cadre légal qui était très lourd, en fait, qui n'a pas forcément facilité aussi l'intégration du métier. Hein. Il fallait signer un protocole d'organisation avec les médecins avec qui on travaillait. Donc, à partir du moment où le médecin y refusait, on ne pouvait pas travailler avec lui. Ce n'était pas le cas, mais en tout cas, dans les faits, il y avait ce document-là. Il fallait que le médecin remette une fiche d'information au patient pour l'informer du fait qu'il allait être suivi par un IPA, ce qu'allait faire l'IPA, et qu'à tout moment, il pouvait arrêter le suivi. Donc, ce n'était pas des éléments qui étaient forcément très facilitateur. Ouais. Avec le temps, on s'en est rendu compte et la législation a évolué. Et donc, du coup, ces éléments-là ont sauté. Et donc, c'est vrai que l'accessibilité à l'IPA et les compétences IPA sont plus faciles à exercer aujourd'hui au quotidien. Après, on est tributaire de l'organisation des soins, ouais, dans lesquels on travaille. Dans mon cas, au CMP, une personne qui vient consulter au CMP est systématiquement, et quoi qu'il en soit, vue par un infirmier en première ligne.
D'accord.
Donc, la présence d'IPA ou non, en fait, ça vient pas se substituer, ouais, à l'organisation, ouais, des soins de l'environnement dans lequel on exerce, quoi.
D'accord. Ok, on comprend bien effectivement. On va se tourner maintenant vers Laurent. Je le disais, Laurent. Donc, vous avez un enfant qui souffre d'un trouble de l'attention.
Oui, c'est
bien
ça. Oui.
Et donc, aujourd'hui, vous êtes accompagné par Marion,
oui,
donc qui est IPA et qu'on entend depuis tout à l'heure. Racontez-nous ce que ça change pour vous.
Bah, ça change la vie, en fait. Concrètement, en fait, ouais, du coup, en fait, mon fils a été, il a eu des problèmes de concentration très jeune, en fait. Donc,
d'accord,
on était un peu perdu. Et donc, on s'est référé à notre médecin traitant. Mm-hmm. Et donc, en fait, c'est notre médecin traitant qui nous a envoyé auprès du CMP, ouais. Donc, du coup, de Neuf-Maisons. Sauf que, bah, avec ma femme, en fait, on était complètement perdus parce qu'on ne connaissait pas. Et donc, du coup, bon, on a contacté du coup, le CMP. On était reçus par Madame Beauvais. Et du coup, tu nous as mis à l'aise... clairement dès le départ. Elle nous a posé donc à ma femme et à moi beaucoup de questions en lien voilà avec mon fils, comment il ses habitudes de vie, comment il se comportait aussi à l'école. Donc il lui répondait très clairement. C'est là que j'ai appris aussi des choses qui se passaient à l'école que mon fils ne nous disait pas en fait. Et donc après, en fait, Mme Beauvais nous a remis un questionnaire de Connors. Donc ce questionnaire-là, en fait, c'est pour diagnostiquer les troubles de l'attention.
D'accord.
Donc, par rapport à ses dires et par rapport à nos dires, du coup, il y avait une suspicion de troubles de l'attention. Mm-hmm. Donc en fait, on en a remis un exemplaire à l'école et un qu'on on a rempli. Et à la suite de ces résultats, en fait, Mme Beauvais nous a envoyé voir un neuropédiatre pour passer des tests complémentaires. Et en fait, du coup, le neuropédiatre, du coup, nous a diagnostiqué un trouble de l'attention sans hyperactivité.
D'accord.
Et donc a mis en place un traitement médicamenteux. Donc voilà. Après, là, on est suivi tous les mois par Dr Beauvais.
Pas docteur,
Mme Beauvais, pas encore, excusez-moi.
Jamais. Ça revient à la pression dont vous parlait Adrien tout à l'heure, en faisant des fois qu'on parlait.
Donc, du coup, Mme Beauvais, on se voit tous les mois pour faire un point sur son traitement. Donc là, on a vu, par rapport à la mise en place de ce traitement, que du coup, ça allait pas trop, parce qu'il y a des effets secondaires indésirables et qui conviennent pas à mon fils. Donc du coup, on a remis en place un nouveau traitement en lien avec le médecin, donc du coup, coordonnateur du CMP de Neuf-Maisons. Et donc là, bon, on vient de le commencer, ce nouveau traitement, mais jusqu'à présent, voilà, ça se passe relativement bien. Mm-hmm. Par contre, du coup, c'est vrai que Mme Beauvais, en plus, quand on y va, c'est vrai que mon fils, il aime bien aller au CMP, parce que c'est vrai qu'elle entretient, en fait, une relation de confiance avec lui, en jouant des jeux de société, en posant des questions, en se mettant à sa hauteur, et du coup, c'est vrai qu'il m'en parle assez régulièrement, et c'est vrai que c'est des choses qu'il apprécie, en fait.
Et vous, justement, vous appréciez, parce que vous voyez aussi votre fils
qui évolue,
et puis qui apprécie en plus ces moments-là, donc c'est quand même hyper rassurant. Enfin, je pense, Marion, quand vous entendez ça, ça fait partie aussi des satisfactions de votre job.
Puis le vrai résultat qu'on a vu aussi, c'est au niveau relationnel, il est beaucoup plus à l'aise.
Il est plus à l'aise, plus ouvert.
Les résultats scolaires.
Là, c'est stupéfiant en fait. Moi, j'ai refait un point avec la maîtresse du début de l'année où c'est qu'on n'avait pas en place le traitement, mais puis mis en place le traitement au moment où c'est qu'on l'a mis en place. Elle m'a dit, c'est le jour et la nuit. C'est vraiment radical ce traitement. Mmh. Et c'est vrai que je reconnais pas mon fils en fait, parce que même son comportement est différent.
Il est évolué,
du moment où c'est qu'il a pas son traitement, si on lui donne pas non plus tous les jours, les jours où c'est qu'il a pas école, je ne lui donne pas, parce que faut aussi que, avec ma femme, on veut aussi qu'il garde sa personnalité.
Ouais.
Et donc du coup, on lui donne le traitement quand vraiment il a besoin de se concentrer, donc notamment à l'école. Et c'est vrai que même le week-end, quand on lui fait faire les devoirs, etc., ça va nettement plus vite, parce que vu qu'il a beaucoup plus assimilé les leçons en classe, du coup le week-end, et c'est beaucoup plus simple pour lui de réviser les leçons, de faire des calculs, etc. Parce que bon, mon fils là, il est en CE2, et du coup c'est l'étape de multiplication, c'est les choses comme ça qui sont très importantes pour l'avenir. Et c'est vrai qu'au début c'était très compliqué, et là maintenant je vois que c'est beaucoup plus simple.
Vous diriez même que ça simplifie la relation familiale, du coup?
Complètement, je suis beaucoup moins sur lui, parce qu'il fait moins de bêtises.
Peut-être est-ce que vous comprenez mieux aussi, parce que vous disiez tout à l'heure, quand on ne sait pas, on découvre, on est un peu perdu, on ne sait pas ce qu'il en est. Est-ce que le fait de savoir, de comprendre, d'avoir appris des choses avec Marion Beauvais, IPA, est-ce que ça vous permet aussi peut-être des fois de prendre un peu de recul par rapport à la situation?
Je vous avoue que moi j'ai encore un peu de mal. Ma femme, elle prend beaucoup de recul, parce que des fois elle me dit attention Laurent, elle me dit fais attention, c'est ce qu'il a. Parce que moi quand on lui répète une fois, deux fois, trois fois, en fait c'est son trouble en fait qui est comme ça. Donc et quand il a pas pris son traitement, bah forcément mon fils il redevient lui-même en fait. Et moi j'ai encore du mal à prendre du recul. Autant ma femme, elle prend vraiment du recul, elle réfléchit, alors que moi je suis plus, j'irai pas rentrer dedans, mais j'ai un peu plus de mal à prendre du recul par rapport à ça. Donc c'est elle qui m'interpelle en me disant attention Laurent, c'est en lien avec son trouble, donc il n'a pas pris son traitement aujourd'hui parce qu'il n'y a pas école, etc. Donc voilà, c'est plus ma femme qui réussit à prendre du recul plutôt que moi. Oui,
on a 75% de réussite, il reste encore un petit peu de travail avec le papa.
Moi je trouve que ce qui était super, c'est j'ai vu que j'avais une bonne alliance avec la famille le jour où Monsieur Sornet m'a dit bon, on nous propose le traitement, qu'est-ce que vous feriez à notre place?
C'est vrai.
Et je trouvais, enfin, moi, je trouve que ça, cette relation-là, elle est chouette parce que c'était vraiment, je sentais que c'était en tant que presque en tant que personne, quoi. Et là, je me dis, bon, bah, c'est bon, enfin, voilà, et puis on a réfléchi ensemble à l'analyse.
Vous devenez partenaire, en fait, dans le suivi.
L'analyse bénéfice-risque de ce qu'on met en place.
C'est ça. Mais après, c'est vrai que, bon, moi, bon, j'ai trois enfants, et du coup, bon, lui, c'est le cadet, et c'est le seul qui a des troubles comme ça. Et à son âge, voilà, avec ma femme, on a discuté, et on hésitait à lui donner un traitement. Enfin, voilà, c'est quand même un médicament qui agit sur le cerveau. C'est une décision qui n'a pas été simple, donc c'est pour ça que je prenais tous les avis que je pouvais avoir, donc dont Madame Beauvais, voilà, parce que voilà, c'est quand même mon enfant, voilà, je lui donne le traitement, il va le prendre, il y a pas de souci, mais après. Voilà, on était un peu réticents au début, et là, quand on voit le bénéfice, bon, c'est bénéfice-risque, hein, c'est toujours pareil, mais il y a beaucoup plus d'avantages de bénéfices que de risques, en fait. Et donc, c'est vrai que j'en suis plutôt content.
Bon, donc, il y a encore, vous, un petit peu d'acceptation.
Oui, mais ça, c'est mon caractère, en fait. C'est comme ça, mais il faut que je travaille sur mon caractère.
Mais ça avance quand même, vous le disiez, on était sur cette idée-là, que globalement, les choses se sont aussi améliorées dans le cadre familial, du coup.
Complètement, oui, complètement. Là, je le vois, même en temps ordinaire, voilà, quand il prend son traitement, il a des activités extrasportives, extrascolaires, pardon, et donc du coup, quand le médicament fait plus effet, même son comportement naturel ne revient pas tout de suite, en fait. Donc c'est-à-dire que même il fait de la musique, je vois le professeur de musique qui me dit, bah, en fait Hugo, je le reconnais pas, en fait il était très très concentré, alors que d'habitude mon fils il regarde en l'air, il écoute pas forcément. Bah, c'est son trouble qui est comme ça. Et là, c'est vrai que depuis qu'on a mis en place ce traitement, je vois vraiment un changement.
Et puis, c'était important d'aller voir le neuropédiatre aussi pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres problèmes derrière. Parce que c'est toujours aussi la difficulté d'évaluation avant de dire que c'est un trouble neurodéveloppemental ou un trouble de santé mentale. Il faut vraiment aller vérifier qu'il n'y ait pas de problème derrière.
C'est ça.
Enfin, voilà. Donc, l'idée au départ, c'était vraiment ça, de s'assurer que tout allait bien.
Finalement, le travail que vous faites avec les familles, c'est aussi ça, c'est d'accompagner vraiment jusqu'au bout pour vérifier qu'on va avoir un parcours qui fonctionnera pour chaque personne différente.
Puis il y a un contrôle aussi qui est fait mensuellement. Voilà, quand on se voit, il y a un contrôle parce que, comme je disais, ce traitement-là, il a beaucoup d'effets indésirables, et notamment l'appétit. Donc c'est pour ça qu'on avait changé le traitement, parce que ce médicament coupe radicalement l'appétit à mon fils. Le problème, c'est qu'il est en pleine croissance, il a 8 ans. Donc c'est pour ça que du coup, il y a un contrôle aussi qui est fait mensuellement de sa croissance, de son poids, de sa prise de poids, etc. Et
c'est une vision extrêmement globale. Quoi. Oui, on est vraiment sur quelque chose. On n'est pas juste sur le. On traite un symptôme, réfléchit vraiment dans la globalité de la personne, de l'enfant là en l'occurrence. C'est riche. Je suis très content de vous recevoir tous aujourd'hui, parce que on sent d'une part la passion de deux professionnels qui ont découvert et créé quelque part un peu leur métier finalement, et puis d'un papa qui, on sent quand même que ça, pour vous, c'était presque une bouée de sauvetage, quoi, à un moment donné.
Bah, franchement, je m'y attendais pas, en fait, parce que comme je disais, je connaissais pas du tout, j'ai jamais été confronté, même dans mon cadre familial, j'ai jamais été confronté à ça, et donc du coup on était complètement perdu avec ma femme. On était vraiment, on savait pas trop quoi faire. On nous avait alerté à l'école, dès la maternelle, on nous avait alerté, mais en fait on n'arrivait pas à voir où aller, en fait. Et c'est avec Madame Beauvais ce qui nous a orienté vers les bons spécialistes, parce que pour passer les entretiens, notamment le neuropédiatre, on a passé aussi les examens au CHU, le RL, vraiment Madame Beauvais qui nous oriente, et c'est de là aussi qu'on a réussi à diagnostiquer ce trouble. Et j'ai même un papa avec qui je discute, le copain de mon fils, je discute avec son papa, et il me disait que son fils a les mêmes soucis, mais du coup, il savait pas trop où s'orienter, et donc du coup, moi, je l'ai orienté vers le CMP, parce que du coup, c'est là où c'est qu'on a réussi à diagnostiquer le trouble de mon fils. Et que du coup, avec la mise en place de ce traitement, du coup, il y a vraiment des résultats assez... très bien, quoi.
Vous devenez presque prescripteur.
Complètement.
Du CMP et du coup des IPA qui y travaillent.
Complètement.
Donc vous avez encore beaucoup de boulot à venir, Marion, Adrien. Je vous remercie mille fois d'être venu nous parler à ce micro, d'être venu témoigner. Laurent, je sais que vous êtes un petit peu stressé avant d'y venir.
Un petit peu, oui.
mais c'était super de vous entendre, parce qu'on comprend bien toute l'importance que revêt ce nouveau métier d'IPA. Et puis merci aussi à vous Marion Beauvais, je rappelle vous êtes IPA en pédopsychiatrie au CPN, Adrien Claude vous êtes IPA vous en psychiatrie pour adultes à Lunéville et vous dépendez du CPN également, et c'était hyper riche et enthousiasmant, j'ai même envie d'utiliser le mot enthousiasmant de vous entendre ce matin.
Merci.
Parce qu'on découvre un nouveau métier et que vous le portez, on sent que vous avez cette envie et cette passion pour le porter, c'est génial, merci à vous vraiment. Je vous souhaite à tous une belle journée, on se retrouve le mois prochain pour un prochain numéro de Full Santé Mentale.
Oui.
On a déjà une thématique prévue.
Alors il y en a peut-être une, mais je m'en souviens plus.
Eh ben, on vous la redonne. Vous la découvrirez dans un mois. Merci à toutes et à tous en tout cas de nous avoir écoutés. Merci Marie-Paul, merci Ombre, merci à Joris à la technique, et à dans un mois pour un prochain Full Santé Mentale.